presque 16h52. Raphaël, on est le lundi 4 novembre et dans exactement un an, les Américains vont choisir un président.
Oui, et c'est peut-être à cause de cette occasion-là qu'il y a eu une série, carrément une avalanche de sondages qui ont été publiés depuis 24 heures. Et le portrait que ça tisse, c'est quelque chose de carrément fascinant. Voici pourquoi je te dis ça. À l'échelle nationale, ce qu'on a, c'est un portrait qui est assez inquiétant, merci, pour Donald Trump. Un taux d'approbation qui est autour des 40, 41, 42 %, ce qui est très faible pour un président qui brigue un deuxième mandat. Une hausse au niveau du pourcentage d'Américains qui est en faveur de sa destitution. Là, les sondages sont clairs là-dessus. À l'échelle nationale, là, c'est une majorité très claire d'Américains qui est soit en faveur de l'impeachment ou au minimum de l'enquête sur l'impeachment. Donc, tu regardes ça, tu te dis, ça va pas très bien. Or, voici le punch de l'histoire. Il y a eu une série de sondages dans les États les plus importants qui ont été publiés par le New York Times ce matin. L'Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Caroline du Nord, la Floride. Pourquoi est-ce que je te mentionne ces États-là? Parce que c'est là que ça va se décider l'élection présidentielle. Beaucoup de grands électeurs. Et on le sait, on l'a vu en 2016, les élections présidentielles ne sont pas décidées par le vote populaire à l'échelle nationale. Si c'est le cas, Hillary Clinton serait présidente. Mais là, ce qu'on voit, c'est que dans ces six États-là, sans exception, on met un affrontement hypothétique entre Donald Trump et la personne que plusieurs considèrent comme étant la favorite présentement dans la course démocrate, Elizabeth Warren. Trump est en avance dans les six États. Mm-hmm. Donc, écoute, tu pourrais avoir, et là, ce n'est pas une prédiction, on est à un an du vote, c'est quelques sondages, mais tu regardes ça, l'avantage au collège électoral dont jouit Donald Trump, c'est majeur. C'était majeur en 2016. On n'avait jamais vu un tel écart entre le perdant du vote populaire et le gagnant du collège électoral en termes de vote. Là, en 2016, si ce qu'on observe se concrétisait, on pourrait avoir quelque chose d'encore plus dramatique.
Raphaël, je te fais la prédiction. On est le lundi 4 novembre 2019, on va l'enregistrer. Donald Trump va gagner dans un an, va être réélu. Pour plein de raisons, et une de ces raisons-là, c'est que les démocrates ont de la misère à trouver un challenger qui soit vraiment, vraiment efficace.
Si, pardonne-moi l'expression espagnole, si t'as les cojones assez développés pour y aller d'une telle prédiction, je peux-tu te demander si
c'est vrai,
si
toi, t'en fais plus.
Moi, j'en fais plus.
Oui.
J'en fais plus.
La différence, c'est que moi, contrairement à toi, je vais pas dire « je ne ferai plus jamais de télé ».
Non, en effet.
Si j'ai tort.
Merci, Patrick. Mais ce que je te dirais, par contre, en fait, ce que je te demanderais, si justement tu as ce courage-là, c'est de me dire si tu penses qu'il va gagner le vote populaire à l'échelle nationale.
Je vois pas de scénario où il peut gagner le vote populaire.
OK. Parce que sais-tu quoi? À ma décharge, là, il y a 3 ans, quand j'avais fait la fameuse prédiction, c'est que je ne pouvais pas concevoir très sincèrement qu'il gagne le vote populaire à ce stade-là. Et il ne l'a pas gagné. Je ne pouvais pas concevoir qu'un candidat perde le vote populaire par plus de 2 points de pourcentage et gagne le collège électoral. C'est ça qu'il a fait. Et si les chiffres qu'on voit présentement se reflétaient l'an prochain, il pourrait potentiellement perdre le vote populaire par 4-5 points de pourcentage et quand même être réélu. Donc, pas une prédiction. Mais si vous pensiez que 2016, ça avait été quelque chose d'incroyable, attachez-vous, on a une année pleine de plaisir devant nous.
Parfait. OK. Et parle-nous des déclarations d'impôts du président.
Oui. Ce qui est assez intéressant, on se parle de ce qui s'en vient en avant. Parlons-nous un instant de ce qu'on suit, en fait, depuis maintenant des années, depuis la campagne de 2015-2016, c'est-à-dire l'insistance des critiques de Donald Trump de voir ces fameuses déclarations d'impôts. On avait vu ça pendant les primaires républicaines, on a vu ça après ça pendant l'élection générale, et on voit ça depuis le début de sa présidence. Là, ce qui a été tranché par une cour d'appel fédérale aujourd'hui, c'est que le président ne peut pas bloquer la diffusion de ces fameuses déclarations d'impôts quand c'est dans un contexte d'enquête criminelle. Donc, autrement dit, s'il y a un grand jury qui veut avoir accès à ces documents-là, il ne peut pas les bloquer. Maintenant, c'est une cour d'appel qui a rendu cette décision-là. La prochaine étape, c'est la Cour suprême. Le président a déjà indiqué qu'il allait faire appel. Donc, écoute, tu pourrais avoir, en plein milieu de la course présidentielle de 2020, à la fois toute l'enquête sur l'impeachment et toute la question des déclarations de revenus de Donald Trump qui pourraient ou non être partagées avec des membres d'un grand jury. C'est incroyable.
Et on rappelle, Raphaël, que c'est le seul président de l'ère moderne qui n'a pas voulu volontairement rendre public ses déclarations d'impôts, chose que tous les candidats à la présidence depuis des décennies avaient fait.
C'est plus que ça. C'est pas juste pas vouloir volontairement. C'est se battre jusqu'à la Cour suprême pour empêcher qu'on les voie. La question, évidemment, pourquoi.
Merci Raph, on se reparle demain. Dès 17h, Luc Ferrandez va nous parler d'Elizabeth May qui a quitté la direction du Parti vert et Pierre-Yves McSween va nous parler d'une nouvelle mesure de restaurant de poutine.